Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est beau un marronnier, mais ça complique parfois notre rapport au monde. Alors attention, je ne parle pas de l'arbre, je jargonne. J'aime beaucoup les jargons, je vous le disais déjà hier, les vocabulaires propres à une profession sont souvent drôles, poétiques, inattendus. Ils ont le charme d'un secret pour initier. Le marronnier, pour les journalistes, c'est un sujet qu'on a déjà traité mille fois et qu'il faut tenter de réinventer, comme le reportage à la plage. Mais il appartient aussi, ce marronnier, à un autre jargon, celui des Wikipédiens. Les internautes qui écrivent et modifient les articles sur Wikipédia appellent marronnier à un sujet de discorde récurrent, un débat sur ce qu'il faudrait écrire dans tel ou tel article. Et je peux vous dire qu'elle est dense, très dense, la forêt des marronniers. L'encyclopédie en ligne fête ses 20 ans cette année. Elle est corrigée, complétée, recorrigée et recomplétée en permanence en temps réel. Or, elle incarne une vision du monde, une fenêtre ouverte sur la réalité. Que devient la réalité si la fenêtre change tout le temps? Quand on parle de Wikipédia, on interroge notre rapport au savoir. Le sujet est bien moins geek qu'il en a l'air. C'est parti, le monde selon Wikipédia.
Dorothée Barba, sur France Inter.
Avec trois invités en direct jusqu'à 10h, deux ici en studio et un à distance. Bonjour Diane Ranville.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes scénariste de bande dessinée, traductrice, ça c'est votre casquette professionnelle si j'ose dire. Et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de Wikimedia France. Peut-être faut-il avant toute chose préciser à quoi sert cette association et quel est son lien avec les contenus qu'on lit dans Wikipédia.
Oui, alors Wikipédia est une encyclopédie en ligne qui a sa communauté de contributeurs et Wikimedia France est un petit peu à Wikipédia ce que les Amis du Louvre sont au Louvre, c'est-à-dire que c'est l'association qui soutient l'existence de Wikipédia, notamment en faisant des choses que les contributeurs ne font pas. Par exemple, les contributeurs, ils sont vraiment sur le contenu éditorial. Nous, notre association, elle n'intervient pas du tout sur le contenu éditorial, mais on va essayer de faciliter l'activité des contributeurs, par exemple, en faisant notamment du lobbying, par exemple, ou plutôt du plaidoyer auprès des politiques pour favoriser les licences libres. Qui sont indispensables à l'existence de Wikipédia pour défendre un certain modèle d'Internet qui permet l'existence du site.
C'est un travail d'accompagnement donc de cette encyclopédie en ligne. C'est un travail bénévole pour vous?
Oui.
Bonjour Rémi Matisse.
Bonjour Dorothée Barba.
Bienvenue, vous êtes historien, conservateur à la Bibliothèque Nationale de France et wikipédien, autrement dit contributeur de cette encyclopédie. Vous avez présidé Wikimedia France pendant 4 ans et vous êtes l'auteur chez First Edition de Wikipédia dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde. Quel est le dernier article que vous ayez touché, corrigé ou complété, Rémi Matisse?
Bonne question. Hier, nous avons regardé l'article sur Kellerman, le vainqueur de la bataille de Valmy. Mm-hmm. Parce que ma fille, qui a 2 ans, va au parc Kellerman et qu'on voulait en savoir plus sur cet individu.
Et avez-vous apporté une modification à cette fiche sur Kellerman?
Non, même pas. Là, c'était vraiment
prendre
le savoir. Ça prend du temps de faire des modifications, ça veut dire repartir dans des livres, chercher les sources. Donc là, c'était juste regarder rapidement.
Donc là, vous étiez un internaute lambda, si j'ose dire.
Tout à fait, oui.
Ça vous arrive aussi parfois?
Avec mon père et ma petite fille, donc vraiment comme tout le monde.
Mon troisième invité est écrivain. Tenez, je vais vous le présenter en lisant sa fiche Wikipédia, bien sûr. Antoine Bello, né le 25 mars 1970 à Boston, est un écrivain et entrepreneur français et américain. Bonjour à vous, Antoine Bello.
Bonjour Dorothée.
Merci de participer à cette émission. Plusieurs romans publiés chez Gallimard, Les Éclaireurs, Ada ou encore L'Homme qui s'envola. Et si vous nous avons invité ce matin, c'est parce que vous versez tous vos droits d'auteur à Wikipédia, Antoine Bello. Vous êtes un grand fan de cette encyclopédie participative, c'est peu de le dire.
Oui, je suis un grand fan depuis que je l'ai découverte comme beaucoup, comme utilisateur assez intensif pour la préparation de mes romans, pour la documentation. C'est un outil absolument incroyable, notamment par la capacité qu'il offre de sauter d'article en article. On peut vraiment, quand j'écris un livre sur l'intelligence artificielle, je pars de cet article, l'intelligence artificielle, mais on peut ensuite bondir de thème en thème, découvrir toutes les grandes figures, toutes les grandes controverses, C'est absolument incomparable, je trouve, comme expérience de découverte de la connaissance. Et oui, j'ai eu envie d'en faire plus. Je trouve que c'est un projet absolument magnifique. Je ne méconnais pas qu'il a besoin de fonds, ne serait-ce que parce qu'il a une infrastructure technique, que parce qu'on a besoin d'entretenir des structures. Vos autres invités sont ou ont été bénévoles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des frais qui sont liés à l'administration de Wikipédia. Et puis il y a tout un travail dont on parle pas souvent, mais qui est très très noble, où Wikipédia, par exemple, enfin la Wikimedia Foundation, paye les frais de justice de gens qui sont mis en examen dans leur pays parce qu'ils ont écrit quelque chose qui avait l'air de déplaire aux gouvernants. Ça, c'est très très beau, et qui va le faire sinon Wikipédia, qui a besoin d'argent pour faire ça.
Voilà, nous n'avons invité ce matin aucun opposant, hein, aucun ennemi à Wikipédia, et c'est tout à fait assumé. L'ambition, ce n'est pas de s'écharper ou de débattre, mais de mieux comprendre comment ça marche et surtout comment cet outil modifie notre rapport au savoir collectivement. Et ça n'empêche pas, bien sûr, les auditeurs et auditrices de formuler des critiques ou des louanges ou des questions ou des anecdotes. J'attends vos messages sur le site et sur l'application France Inter, également par téléphone 01 45 24 7000. Croyez-vous qu'on puisse décider comment on se présente soi-même sur Wikipédia ? Oh que non, ce serait trop facile. On va y venir. C'est l'été comme jamais.
Toi qui as posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai. Je t'emmène
avions prévu de vous faire écouter France le 14 juillet, et c'était même pas exprès. France-Galles sur France Inter. Et je vous emmène ce matin dans le monde merveilleux de Wikipédia, ce site internet sur lequel vous tombez à chaque recherche Google, à chaque question que vous vous posez sur une info, une date, un écrivain. Wikipédia a 20 ans cette année. J'aimerais vous raconter comment l'écrivain Philippe Roth a cherché des noises à Wikipédia.
On a la responsabilité d'écrire du mieux qu'on peut. Il le faut, une fois qu'on a fait ça, on est tranquille. On peut faire tout ce qu'on veut. On n'a aucune responsabilité envers quiconque. On a une responsabilité envers la littérature, l'une des grandes causes perdues de l'humanité. On a une responsabilité envers la littérature. Et comment se comporte-t-on de manière responsable ? En s'impliquant dans son livre avec tout ce qu'on a.
Que peut faire la littérature ?
Bien peu. Elle ne fait pas grand-chose. Mais elle est bigrement importante.
La voix d'un écrivain bigrement important lui aussi, Philippe Roth, interrogé ici par François Bunel. Cet écrivain américain décédé en 2018 a eu maille à partir avec Wikipédia et l'histoire est racontée dans un nouveau titre de presse qui s'appelle Live Magazine. C'est un trimestriel proposé par le groupe Bayard. Ce numéro 1 qui vient de sortir est une très belle réussite. On y trouve des histoires de vie, de secrets, de mensonges, de faussaires. Ça fait écho, Antoine Bello, avec l'un de vos romans, L'homme qui s'envola. Et vous y lirez un article titré Faut pas faire chier Wikipédia. Il est signé de la romancière Alice Zeniter. Elle nous raconte avec beaucoup de talent et beaucoup d'humour cette histoire folle. En 2012, Philippe Roth consulte l'article Wikipédia consacré à l'un de ses romans, La Tâche. Il lit dans cet article que le personnage principal du livre, un universitaire accusé de racisme, est inspiré d'un certain Anatole Broyard. Philippe Roth s'étouffe. Cette information est fausse. Alors il va charger son biographe de corriger l'article. Le biographe s'exécute, il enlève la phrase en question sur Wikipédia, mais sa correction est retoquée au motif que la source n'est pas crédible. Question donc, Rémi Matisse, qu'est-ce que donc que cette encyclopédie qui n'accorde pas à un écrivain le droit de savoir mieux que les autres ce qu'il y a dans son propre roman ?
Alors c'est un excellent exemple parce que ça pose plein de questions justement. Mm-hmm. D'abord ça pose la question de qui parle. Quand le biographe arrive pour faire des modifications, personne ne sait qui est cette personne, personne ne sait s'il parle réellement au nom de Philip Roth, personne ne sait exactement ce qu'il en est. Donc sur Wikipédia, ce qui est important, c'est pas qui on est, c'est est-ce qu'on a des sources pour affirmer les choses, et du coup est-ce que le texte est en relation avec ces sources globalement acceptées. Et après il y a un deuxième problème de fond qui en réalité n'est pas exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que il y avait marqué dans cet article que non pas que c'était inspiré de cette personne-là, mais que d'après un critique littéraire important qui avait écrit dans le New York Times, ça lui rappelait l'histoire de cette personne-là, et ça disait aussi que Philip Roth avait dit que en fait il ne connaissait pas cette personne-là, mais que c'était plutôt inspiré d'une autre personne. Donc ça, c'est un des principes très très importants sur Wikipédia, qui s'appelle la neutralité de point de vue, qui est que, étant donné que Wikipédia est écrit par des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, ils doivent juste rapporter ce qu'on sait sur un sujet. Donc, ce qu'on sait sur un sujet, sur un cas tel que celui-là, c'est ce qu'on a dit l'auteur lui-même et ce qu'on en dit des spécialistes reconnus. Donc, qu'un critique dise que ça
lui rappelle... Un critique, le biographe, celui qui est le mieux renseigné quand même sur le cas de l'écrivain.
Mais qu'il y avait finalement deux points de vue sur cette histoire, l'une de Philip Roth et de son biographe, et l'autre d'un critique littéraire très reconnu.
Mais les deux points de vue se valent.
Alors, les deux points de vue ne se valent pas, mais les deux points de vue sont attribués à leur auteur et sont présentés au lecteur pour qu'il puisse se faire son avis sur la question.
Comment s'est terminée cette querelle entre Roth et Wikipédia ? Vous nous racontez la suite, Rémi Matisse ?
Alors, globalement, il ne s'est pas passé grand chose. Si ce n'est que des dizaines de personnes sont allées creuser un petit peu toute cette histoire et on est resté sur un paragraphe plus fourni et qui explique un petit peu tout, mais qui reste sur l'idée que l'auteur n'a pas le monopole du discours sur son œuvre et qu'il est normal de présenter les différents points de vue. C'est vraiment le principe de Wikipédia.
Cela renseigne au passage sur une information savoureuse. C'est ce que précise Alice Zeniter dans son papier. L'immense Philippe Roth tapait parfois son nom dans Google pour vérifier ce qu'on disait de lui. Antoine Bello, vous faites pareil, j'imagine ?
Oh, on le fait tous, je pense, d'une façon ou d'une autre. Mais ce que vient de dire M. Matisse, c'est vraiment très important. Est-ce qu'on imagine Donald Trump écrire lui-même sa notice Wikipédia ? Je crois qu'on a tous envie d'être préservé de ça. Or, pourtant, il est d'absolue bonne foi et il nous expliquerait ce qu'il faut penser de l'attaque du Capitole ou de sa présidence merveilleuse.
Oui, sauf que là, on est dans la fiction, Antoine Bello. Oui, lui-même a fabriqué cette fiction.
Mais moi, je comprends, j'ai été exposé d'une certaine façon à ça, pas de la même façon, pas sur une erreur factuelle, mais d'une certaine façon, parfois, ce qui est le plus énervant dans les notices Wikipédia, je ne suis pas le seul à le dire, c'est qu'elle s'accroche à un petit détail qui est parfaitement anecdotique dans la vie d'un auteur ou d'une personnalité, et qui est monté en épingle et qui finit par représenter 5% ou 10% du contenu de la note biographique, ouais. Comme si ça prenait tout à coup une importance démesurée. Et pour faire sauter cette chose-là, ou pour la mettre en contexte, on s'expose en effet à des grandes difficultés, parce qu'il faut pouvoir prouver, parce qu'il faut avoir des sources. Et bon, Philippe Roth, il avait beaucoup de sources à son appui. Quelqu'un comme moi qui n'a pas des articles sur lui tous les quatre matins non plus, ça devient presque plus difficile de prouver que quelque chose n'existait pas que pour la première personne qui a avancé un fait, ou peut-être parce que c'était plus tôt, à une époque où Wikipédia avait des standards aussi moins rigoureux, elle a pu le faire plus facilement. Mais sur le principe, en tant qu'utilisateur de Wikipédia, moi, je suis absolument attaché à ce principe de la neutralité de point de vue. Et c'est ça qui fait tout le sel de Wikipédia. C'est-à-dire que c'est vraiment... on sait qu'on peut aller sur n'importe quelle fiche et avoir pas un avis, justement, mais des faits qui sont rapportés, libre à chacun de se faire son avis. Et c'est exactement, enfin, ce qui est le plus important. Je pense que Wikipédia est fondée sur est sous l'empire complètement de la raison. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez, parfois on me dit, ah oui, mais tu vas sur Wikipédia, si tu penses quelque chose, tu le penseras toujours après, si tu pensais le contraire, tu n'auras rien trouvé pour te démentir. Je trouve ça pas mal. Enfin, ça veut dire que quelque part que
c'est le biais de confirmation, de réflexion à faire, du cerveau.
Et que si on n'est pas prêt à le faire, oui, on trouvera toujours dans les faits qui nous sont rapportés des éléments qui plaident pour notre cause. Donc c'est ça pour moi la richesse absolue de Wikipédia. Il faut préserver ça, quitte à ce que ça crée des petits désagréments. Pour Philippe Roth ou d'autres.
Philippe Roth, en l'occurrence, a écrit une lettre à l'encyclopédie en ligne, une lettre ouverte publiée à l'époque dans le New Yorker. « Cher Wikipédia, je suis Philippe Roth. » Et cet article a servi ensuite de source crédible pour corriger l'article. Diane Ranville, tout est toujours affaire de source.
Oui, bien sûr, parce que je vérifiais à l'instant l'article et l'article dit désormais simplement que Philippe Roth a réfuté l'hypothèse selon laquelle son personnage serait inspiré donc à présent l'article est conforme, on va dire, à la réalité, c'est-à-dire qu'il évoque l'hypothèse et puis il explique que l'auteur a réfuté lui-même cette hypothèse. Évidemment, les sources, c'est complètement crucial, comme disait Rémi Matisse à l'instant. Sur Wikipédia, on est tous des anonymes, ou en tout cas des pseudonymes. Et donc, pour attester de ce qu'on raconte, il faut mettre des sources. Et c'est ça qui permet, en fait, la traçabilité de l'information. C'est ça qui permet aussi, en tant que lecteur ou lectrice, qu'on puisse retrouver d'où vient l'information, la tracer, et tout simplement pas prendre les choses pour argent comptant, mais on est mis aussi dans une position active de pouvoir aller rechercher les sources et avoir un regard critique sur ce qu'on nous présente.
Est-ce qu'on peut y voir, d'une certaine manière, le royaume du soupçon permanent ?
Oui, le royaume du soupçon,
du doute plutôt,
voilà, de manière plus positive, le royaume du doute et le royaume aussi d'une volonté de recherche de vérité qui est quand même au cœur de la philosophie de Wikipédia, de son utopie aussi, parce que on est sur un projet quand même quasiment utopique de vouloir mettre l'intégralité du savoir humain à disposition de l'entièreté de l'humanité. C'est quand même un projet fou.
Une auditrice nous appelle de Marseille. Bonjour à vous Claire, soyez la bienvenue.
C'est gentil, bonjour.
Vous avez une question?
Voilà, elle est simple. J'ai un de mes neveux qui est peintre et sculpteur, qui est né en France, qui s'appelle Clète. Je donne son nom parce
Allez-y.
Que je ne peux pas plus vérifier. Clète, son prénom, Abraham. Dans sa fiche Wikipédia, il est indiqué qu'il est né à Séville et qu'il est de nationalité espagnole.
Les invités vérifient en temps réel, attention.
Oui, c'est pour ça que j'ai donné le nom. En même temps, vous constatez dans le corps du texte qu'il est français. Mm-hmm. Donc, il est français, mais il est de nationalité espagnole et il est né à Séville. Or, il est né en France, hein. Il n'est pas du tout espagnol et il habite à Florence. Mm-hmm. Et pas du tout à Séville, etc. Donc, tout ça pour dire que je sais qu'à plusieurs reprises, il a essayé de changer les coordonnées qui lui sont attribuées, qui ne sont pas du tout exactes, mais il n'a jamais pu obtenir la vérité, un peu comme Philippe Ross, voilà. Hein, sauf qu'il n'a pas la notoriété de Philippe Ross, même s'il a une bonne notoriété.
Merci beaucoup pour cette intervention, Claire, bonne journée à vous. Effectivement, c'est assez vertigineux cette question. On n'est pas maître de sa propre biographie sur Wikipédia,
oui.
Diane Ranville.
Oui, effectivement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est... Excusez-moi.
Je vous en prie.
Ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'il y ait une source qui atteste de ce lieu de naissance et tout simplement
mais
peut-être
lui-même,
trouver.
Mais lui-même, c'est lui qui.
Oui, c'est-à-dire. Mais en fait, pour pouvoir retrouver l'information, il faut qu'il le dise. Par exemple, à France Inter, il vient ici, il dit bonjour, je suis né.
Quelle pression sur nos petites épaules.
Peut-être qu'on pourra utiliser cette émission comme source.
Ah oui, Rémi Mathis, c'est possible ça
c'est, est-ce alors, que c'est possible
le fait que quelqu'un de sa famille ait appelé ce matin en direct
pour dire qu'il faudrait une publication.
Ce qu'on appelle une source, c'est une source vérifiée. Publié si possible par un spécialiste, donc au maximum un catalogue d'expo, etc. Au pire, une interview dans le monde journalistique.
Je vous remercie.
Il y a en effet quand même plusieurs niveaux de crédibilité de sources, donc les articles scientifiques sont au maximum, les publications grand public, et dans une interview, on sait très bien que si je vous dis que je suis né à Marseille, vous en savez rien. Donc je peux dire n'importe quoi et ça sera pas une source. Et donc précisément, une source est censée être quelque chose vérifiée par une autorité sur le sujet et donc sa tante, je ne doute pas qu'elle dise la vérité, mais ce n'est pas une source.
D'accord.
Donc ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui s'est passé sur cet article, très important, lié à chaque article, il y a un historique qui permet de voir les différentes couches et qui a modifié.
Il faut cliquer en haut à droite à sur historique.
Voilà, comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur cet article et essayer de le réécrire en se fondant sur des bonnes sources.
Antoine Bello, que vous inspire l'histoire de cette auditrice?
Je pense qu'elle est relativement classique, mais il faut absolument tenir bon. Et d'ailleurs, je ne crois pas que Wikipédia ait l'intention de baisser les armes sur ce sujet. Les sources doivent passer avant tout. Vous disiez quel monde que celui où les artistes ne peuvent pas contrôler leur propre biographie. Mais heureusement, vous donnez la parole à des artistes et vous les laissez écrire leur biographie Wikipédia. Mais ça serait un déversement d'ego et de contre-vérité. Et on passerait sous silence les moments un peu embarrassants et voilà. Non, donc il faut absolument éviter ça. Il y a un élément de Wikipédia qu'on ne mentionne pas et je m'en excuse par ailleurs par avance, c'est peut-être pas totalement le thème de l'émission, mais Wikipédia c'est disponible en 300 langues. Et c'est pour moi, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi je donnais mes droits d'auteur à Wikipédia, c'est peut-être l'élément le plus important. Et vous avez aussi dit, Wikipédia c'est une vision du monde. Non, justement, Wikipédia ce sont 300 visions du monde. Et vous prenez n'importe quelle
multiplié
fiche.
Multiplié par le nombre.
C'est vertigineux. Vous prenez la fiche de quelqu'un qui est dans presque toutes les langues, vous prenez la fiche de Barack Obama et vous allez lire sa biographie sur le site américain, le site français, le site kényan, le site, justement, un site néo-zélandais. Vous allez avoir des variations, vous allez avoir une tonalité qui est complètement différente. Et c'est absolument crucial. C'est en cela que c'est un outil pour les historiens, c'est un outil pour les sociologues, c'est un outil pour tous les chercheurs, c'est un outil pour les citoyens. Moi, j'ai découvert Wikipédia en 2002, au moment où je suis arrivé aux États-Unis et on était en pleine phase de montée vers la guerre. Les États-Unis se préparaient à envahir l'Irak et les Français, comme on le sait, étaient vent debout contre la guerre. Et c'est vraiment à cette occasion, j'ai presque honte de le dire tellement j'avais l'air naïf avant, mais que j'ai commencé à lire les presses des deux pays et à me rendre compte à quel point elles ne racontaient juste pas la même histoire. Il y avait des faits qui se déroulaient tous les jours et je les voyais rapportés par le New York Times, le Wall Street Journal, le Figaro, le Monde et tout, et je ne lisais pas la même histoire. Wikipédia, c'est exactement ça. Alors, avec en plus cette sorte de... On tend vers la vérité, donc on va se raccrocher à des faits plutôt qu'à des interprétations. On va toujours aller à la recherche de ce qui peut être prouvé, de ce qui peut être sourcé. mais on rapporte les points de vue. Et en cela, enfin, allez lire l'article sur justement cette année 2002-2003, la montée vers la guerre, le discours de Colin Powell aux Nations Unies, par exemple. Allez lire le discours américain et, la page française et la page américaine. Vous aurez des histoires très différentes. Et c'est ça qui doit absolument cohabiter.
J'en reviens.
On est 300 langues aujourd'hui, c'est merveilleux.
J'en reviens à votre fiche Wikipédia, Antoine Bellou. Elle est disponible en 8 langues. C'est pas mal, ça, 8 langues.
Oui, oui, c'est pas mal. Malheureusement, je peux pas la lire dans certaines des langues où elle est écrite. En plus, je crois qu'elles sont relativement squelettiques dans certaines langues. Mais
on y apprend que vous êtes.
Enfin, c'est un mystère complet. Hein. Vous oui. savez, un jour, votre fiche apparaît en arménien et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'est-ce qui s'est passé à Erevan pour que tout à coup ma fiche soit traduite ou écrite.
On apprend dans la version francophone que vous êtes l'arrière-petit-neveu de Marcel Aimé et que vous avez publié votre premier roman en 1996. Tout est vrai, évidemment.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
France Inter. Dorothée Barba. L'été comme jamais.
C'était General Electric sur France Inter. Vous écoutez L'été comme jamais en direct en ce 14 juillet jusqu'à 10h avec Rémi Matisse, l'auteur de Wikipédia, dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde, avec le romancier Antoine Bello, grand fervent défenseur de Wikipédia et qui verse ses droits d'auteur chaque année à l'encyclopédie en ligne, et avec Diane Ranville, membre du conseil d'administration, du conseil scientifique de Wikimédia France. Pas de patron, pas de pub sur Wikipédia. C'est un élément important sur lequel il faut insister, Diane Ranville.
Oui, Wikipédia est une encyclopédie qui est complètement autogérée par les contributeurs et contributrices qui y participent. Donc effectivement, pas de patron, pas de pub, c'est un principe très très fort. C'est peut-être un des rares endroits sur Internet où on n'est pas pollué par la publicité. En revanche, il y a des gens qui essayent de faire leur pub quand même à l'intérieur de leurs articles, mais les contributeurs et contributrices sont très attentives et attentifs pour empêcher ça.
Isabelle, une auditrice, nous pose une question sur le financement de Wikipédia. Quelle est la différence entre Wikipédia et la fondation, écrit-elle. Pourquoi y a-t-il le bruit sur les réseaux que Wikipédia serait payé par les GAFAM?
Alors,
peut-être Rémi Matisse, vous voulez répondre, non? Quand
Diane Ranville, mais Wikipédia n'est pas financé par les GAFAM. Alors, Wikipédia, tout l'argent qui est récolté, vous voyez une ou deux fois par an un bandeau qui s'affiche sur Wikipédia qui vous demande de donner un peu d'argent. La fondation Wikimédia ainsi que les associations Wikimédia locales, on va dire nationales comme Wikimédia France, les principales sources de financement à 90%, je dis un chiffre qui est pas tout à fait juste, mais disons majoritairement, ce sont des micro-dons d'une moyenne de 20 euros, et après il y a quelques gros donateurs, etc. Google, et il se trouve que Google évidemment est très friand de Wikipédia parce que Wikipédia fournit des données structurées, des réponses en fait aux gens, aux questions que les gens se posent, et donc Google avec son algorithme va aller très facilement moissonner Wikipédia, et donc en fait récemment, je ne sais pas si tu veux en parler de Wikimedia Enterprise, si on veut,
Rémi Matisse,
c'est un petit peu technique.
Il y a surtout un fait qui est important dans le financement de Wikipédia, c'est qu'on est en train de changer de modèle économique actuellement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça fonctionnait, comme l'a dit Diane, sur un système de flux, donc vraiment des levées de fonds avec les bandeaux qui nous embêtent au mois de décembre, qui ne veulent pas se fermer, voilà. Et ça, on est en train de changer pour gagner plus de pérennité dans le fonctionnement. Il y a un fonds de roulement qui est en train d'être créé, en gros pour fonctionner comme les universités américaines ou les grands musées, où on fonctionne pas sur du flux chaque année, mais sur un stock, donc une somme d'argent très très importante, et on vit sur les intérêts de cette somme. Et là, il n'est pas faux qu'une partie de cette somme a été donnée par des grandes entreprises, généralement par les fondations des grandes entreprises, pas par les entreprises elles-mêmes, et donc c'est beaucoup moins vertueux au sens, ce n'est plus des petits dons, mais c'est ça qui donnera au contraire une indépendance à Wikipédia, ce qui sur le long terme est plutôt intéressant.
Revenons-en sur ce que notre rapport à Wikipédia raconte de notre lien au savoir et à la connaissance, car c'est bien notre sujet ce matin. Ce mot encyclopédie, il a une histoire très riche en France. Voici ce que Voltaire écrivait à Diderot sur l'encyclopédie avec un E majuscule. « Votre ouvrage est une babel. Le bon, le mauvais, le vrai, le faux, le sérieux, le léger, tout est confondu. » On pourrait dire la même chose aujourd'hui de Wikipédia, Rémi Matisse.
Alors, tout à fait. C'est très intéressant de comparer l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est forcément le modèle de tout encyclopédiste depuis deux siècles, et Wikipédia, parce qu'on retrouve en effet des choses assez semblables.
Dans les reproches, notamment.
Dans les reproches et dans certaines approches, parce que les gens restent plutôt sur l'encyclopédie universaliste, par celle qu'on utilise, et ils ne connaissent pas si bien que ça l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert. Or, quand on reproche, par exemple, à Wikipédia de traiter de sujets techniques au même niveau que de la culture légitime, de parler d'informatique comme on parle de Victor Hugo, quand on lui reproche de parler de choses légères au même niveau que de choses sérieuses, quand on lui reproche que les articles sont anonymes, ça c'est des choses qu'on retrouve dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et donc ça n'a jamais gêné personne, avec toutefois des différences très très importantes sur le fait qu'on n'a plus la contrainte de la place, donc on peut traiter d'un beaucoup plus grand nombre de sujets, sur le fait que ça évolue en permanence, sur il y a plein de choses qui sont différentes, mais il y a des choses où finalement Wikipédia est beaucoup plus proche de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qu'Universalis ne l'est en réalité.
Et la grande différence évidemment entre l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et celle de Wikipédia aujourd'hui, Antoine Bello, c'est que Wikipédia est modifiée et corrigée en temps réel. Est-ce que c'est pas un peu épuisant, si je puis employer ce mot, de se dire que la vérité n'est jamais figée et qu'elle est toujours évolutive?
Au contraire.
Oui, c'est peut-être épuisant, c'est comme ça. Enfin, je pense qu'on n'y peut malheureusement pas grand-chose, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Les gens qui cherchent la vérité, enfin, j'imagine les sages qui se sont un peu approchés de la vérité ont compris que c'est un processus. C'est le processus de recherche qui constitue le premier pas vers la vérité. La vérité, elle se dérobe toujours. Enfin, c'est l'image du château dans le roman de Kafka. On n'y arrive jamais.
C'est le chemin qui compte, mais pas la destination.
Oui, moi je crois beaucoup à ça. Si on veut toucher à la réalité d'un personnage ou d'un phénomène, non seulement il faut lire la fiche Wikipédia, mais il faut accepter de revenir la lire un mois plus tard, un an plus tard. Il faudrait idéalement pouvoir la lire un siècle plus tard. Enfin, cet aspect du temps me paraît absolument fondamental. Et j'en parlais avec des gens de la Wikimedia Foundation aux États-Unis, qui certains n'étaient pas même conscients de cette dimension historique. Et je leur disais, mais enfin, pensez à l'outil fantastique que seront les modifications sur la page de Trump entre 2014 et 2016, le moment où on le prend pour un amuseur de foire à celui où il devient le candidat du Parti républicain, comment sa page a été complètement réécrite, parce que la vérité a été réécrite, la réalité a été réécrite.
Alors, puisque vous parlez du rapport au temps, cette citation trouvée à la page des marronniers dont je parlais tout à l'heure, hein, cet endroit sur Wikipédia où sont recensés les sujets de discorde, j'ai lu ceci: avoir raison ne suffit pas sur Wikipédia, il faut en convaincre les autres, ce que l'on ne parvient pas toujours à faire, auquel cas il faut s'y résoudre et passer à autre chose en espérant que le temps fasse son œuvre. C'est une philosophie de vie, Antoine Bello.
Enfin, je trouve que c'est une des choses les plus sages qu'on ait entendues là ce matin. C'est très vrai. C'est ça la vérité du travail de conviction et la raison. Je disais que tout Wikipédia était placé sous le sceau de la raison. Je pense que c'est exactement ça. À quoi sert une vérité dont on n'est pas capable de convaincre les autres? C'est un mysticisme. Si on n'est pas capable justement d'en apporter les preuves, d'en refaire la démonstration, de montrer des sources, ça n'est rien d'autre qu'une conviction. C'est une conviction qui se masque pour un fait. Et donc, parfois, il faille du temps pour faire évoluer les choses, évoluer un sentiment national, par exemple. C'est normal. C'est la conviction, le travail de conviction qui doit faire son œuvre.
Diane Ranville.
Oui, sur ce sujet, je pense que c'est important aussi de souligner que finalement, quand on compare aux autres plateformes qui existent en ligne, notamment les réseaux sociaux, qui sont le règne de l'opinion et de la petite phrase
et de l'invective,
Wikipédia est un endroit où des gens de tous horizons, qui ont des opinions politiques différentes, qui ont des cultures différentes, et arrivent à discuter pour trouver les formulations sur lesquelles ils vont pouvoir tous être d'accord, quelle que soit leur opinion, pour réussir à cerner une sorte de vérité sur un sujet. Et je trouve ça assez beau parce que c'est une culture qu'on tend peut-être à perdre dans d'autres zones de l'Internet. Et qui en fait permet de nous faire évoluer en tant que personne aussi, d'être plus ouvert aux différents points de vue, de vraiment chercher une formulation qui soit neutre, et de cette manière-là tendre à cette vérité.
Nous accueillons un auditeur wikipédien. Bonjour à vous Pierre, bienvenue.
Oui, bonjour.
Quelle est votre utilisation de cet outil?
Oui, merci de prendre mon appel. En effet, je suis un contributeur assez régulier de l'encyclopédie. J'ai commencé à découvrir l'outil quand j'étais au chômage, en fait, tout simplement, et j'ai été intéressé par comment, enfin, il y avait un article que je voulais modifier. Je savais pas qu'il était possible de le faire. J'ai commencé à regarder un peu, j'ai commencé à modifier, et là on commence à rentrer dans le monde, dans tout aux intervenants et les intervenantes aussi parlent, qui est incroyable on modifie quelque chose et au début on fait une connerie et en fait il y a quelqu'un qui est là pour te dire attention, les règles c'est ça, et là on apprend et après on commence à s'améliorer et puis à permettre aussi à d'autres personnes progressivement de leur donner, de leur dire bon voilà ce qu'il faut faire et progressivement de construire quelque chose ensemble quoi.
C'est une société que vous décrivez là, Pierre.
Bah je sais pas comment le voient les personnes qui sont invitées. Mmh. Moi je le vois, il y a un peu une société, je sais pas, mais une communauté en tout cas. Ouais. Sur lequel il y a un certain nombre de règles et de valeurs qui sont partagées et qui permettent de construire quelque chose de plus grand que ce qu'on pense. J'avais une petite question, je sais pas si...
Allez-y, allez-y.
Oui, alors, je me demandais justement sur la démocratisation de Wikipédia, ce qu'en pensaient vos intervenants, intervenantes, sur est-ce qu'ils pensent que Wikipédia devrait plus inciter à la contribution, devrait plus permettre aux personnes, à monsieur et madame tout le monde, de savoir qu'il est possible de contribuer. Comme ça, en fait, demain, vous pouvez prendre un article et contribuer. Ou alors, est-ce qu'ils pensent qu'au contraire, c'est pas mal de conserver une certaine manière, une possibilité pour les personnes qui savent déjà un peu faire?
Et de rester entre initiés, si j'ose dire.
Voilà, rester en tout cas entre personnes qui savent un peu, quoi, pour pas que ça parte complètement au wallo.
Merci beaucoup, Pierre, pour cette intervention. Très bonne journée à vous. Diane Ranville.
Oui, et ben justement, une des missions de Wikimedia France, c'est d'inciter les gens à contribuer, en tout cas de leur en donner les moyens. À ce sujet-là, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir notre WikiMOOC. Un MOOC, c'est un cours en ligne qui permet d'apprendre, en l'occurrence, à contribuer à Wikipédia. Vous apprenez aussi des choses de culture générale sur Wikipédia. Comme ça, vous apprenez à la fois à l'utiliser en tant que lecteur ou lectrice et en tant que contributeur, contributrice. Donc, vous pouvez aller, si vous tapez WikiMOOC sur votre moteur de recherche préféré,
vous trouverez toutes les infos. Un auditeur nous parle des Wikigames. Je ne connaissais pas, je trouve ça très amusant. Ça consiste à aller de lien en lien pour joindre deux mots qui ont été définis auparavant, passant d'article en article et en cliquant donc le moins de fois possible. Exemple, partir de Louis XIV et arriver à brosse à dents, Rémi Mathis. Vous avez déjà joué à ce genre de wiki game?
Oui, on peut s'amuser à ça et ça repose vraiment sur une des grandes forces sur Wikipédia, notamment par rapport au livre papier. C'est justement ce système de liens.
La sérendipité et trouver ce qu'on ne cherche pas.
Exactement.
L'hyperlien quand même, qui est quand même une invention dont Diderot et d'Alembert auraient été extrêmement friands. Je pense qu'ils auraient...
Diderot aurait adoré l'hyperlien.
Ils auraient kiffé.
Ouais. Il y a d'une part le fait de se perdre et de trouver des sujets dont on ne savait pas qui nous intéresserait, et d'autre part le fait qu'en fait sur Wikipédia lire un article c'est pas forcément suffisant, et donc critiquer un article en particulier c'est très intéressant, il faut le faire, mais il faut aussi voir tout le contexte qu'il y a autour. Et il y a certains articles qu'on ne comprend qu'en rebondissant sur un article et qui nous fait rebondir sur un article et ainsi de suite.
Je voudrais terminer sur une expérimentation personnelle, et je sais que vous allez me gronder, Rémi Mathis. Hier avec l'équipe de l'été comme jamais, on a essayé de modifier la page de Charline Van Honecker. Pourquoi elle? Parce que voilà, on a voulu indiquer qu'elle avait adopté un koala d'Australie. C'est un hommage à Alice Zeniter qui, dans son article sur Philip Roth, explique qu'un contributeur a dit qu'elle aimait les koalas d'Australie. C'est faux, ça a été corrigé. L'article, notre rajout a tenu 4 minutes précisément. Il a été corrigé ensuite parce que notre source n'était pas précisée. C'est mal de faire ça, c'est ce que vous m'avez dit hors antenne. On ne rajoute pas des fausses informations sur Wikipédia, pourtant c'est amusant.
C'est amusant, mais c'est un espace public et c'est un espace qui est là pour le bien commun. Et donc on ne pollue pas une encyclopédie pour le plaisir.
Vous ne pensez pas que tout le monde va essayer d'aller le faire là ce matin? C'est le risque.
C'est un petit peu le risque de donner des mauvaises pratiques. L'exemple qu'on a l'habitude de donner, c'est que c'est vraiment c'est un lieu public. Et donc on peut critiquer le fait qu'il y ait des papiers sales dans la rue. On peut appeler son adjoint au maire pour s'en plaindre. On ne rajoute pas un papier sales pour voir combien de temps il faudra pour que les employés municipaux fassent disparaître ces papiers sales.
Mon papier sale à moi a tenu 4 minutes précisément.
Donc, nos employés municipaux sont formidables.
Voilà. Antoine Bello, vous avez déjà joué à ça?
Non, j'ai jamais joué. J'ai déjà lu là-dessus. Ça me paraît absolument fascinant. Il faut que je m'y mette.
Évitez de faire ça, s'il vous plaît.
Et c'est un appel, un cri du cœur qui est lancé ce matin. Et c'est l'été comme jamais, on est en direct ensemble jusqu'à 10h. Voici Bonnie Banane sur France Inter. Tcha, tcha, tcha.
Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
La température a grimpé. Quand tu m'as accompagné. Soudain j'ai trouvé une idée. Pour cacher ma timidité.
C'était qu'une simple démonstration. J'étais prêt à l'essai. Juste une façon de faire diversion. Avant que ça dégénère.
Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue.
Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai, histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves pas.
Faire des dégâts. Amène-moi, amène-moi. Je veux, je veux, je veux rentrer chez toi.
T'es dans tous tes états. Bada boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat.
Chapeau bas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. Fais comme moi, tcha tcha tcha. Hop de poids, tcha tcha tcha.
L'été comme jamais a plongé ce matin dans les entrailles de Wikipédia. Il y avait encore beaucoup à dire, évidemment, mais je termine par une question rituelle. Une question que je pose tous les matins à mes invités et qui prend ce matin une saveur particulière puisque nous avons parlé de notre rapport à la connaissance. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On commence avec vous, Rémi Matisse.
Alors moi, ça sera les questions d'écologie, sur un certain nombre d'idées reçues sur ce qu'il faut faire pour créer un monde meilleur, en tout cas durable. Et donc toutes les questions de glyphosate, de nucléaire, où j'avais tendance, moi je viens d'une famille de profs France Inter, où on est
bravo pour ça.
Forcément un petit peu écolo, forcément avec des idées reçues sur ces questions, et se rendre compte que certaines problématiques sont plus compliquées, notamment que maintenant je suis assez persuadé qu'on ne résoudra pas la crise climatique sans nucléaire, parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a 5 ou 10 ans, j'aurais pas du tout dit ça. Et je pense que voilà, Wikipédia est un des endroits où on peut reprendre une problématique générale et remettre en question ses a priori.
Diane Ranville, sur quoi avez-vous changé d'avis ?
J'ai changé d'avis plusieurs fois sur l'expo que je vais aller voir cet après-midi et j'ai toujours pas
mais
décidé.
Mais il faut réserver en raison des conditions sanitaires, ça sera trop tard.
On verra.
Allez voir peut-être, voilà, les passages à Paris, va aller voir une exposition et c'est impossible de se décider.
Ouais,
Antoine Bello, sur quoi avez-vous changé d'avis ?
D'abord, je tiens à préciser que j'introduirai jamais de fausses informations sur Wikipédia. Je croyais que vous me parliez du jeu des liens, là, qui me paraît
très
amusant.
Oui, bien sûr.
Pas du jeu,
il est très drôle, ce jeu.
La réalité,
moi, j'ai perdu. Mais le jeu de mettre des fausses infos.
Voilà.
D'accord.
J'ai changé d'avis sur l'obligation vaccinale. Je suis quelqu'un d'épris, je suis très épris des libertés individuelles. Et j'ai toujours pensé que chacun avait le droit de disposer de son corps et de sa santé. Et là, je suis obligé de dire que le coût pour la collectivité est tellement énorme, et notamment le coût pour la prochaine génération sous la forme de la dette qu'on va leur laisser. Chaque confinement coûte des dizaines et des dizaines de milliards que nos enfants devront un jour rembourser, que je pense qu'on est fondé à demander l'obligation vaccinale. Mais c'est mon avis.
Et c'est bien le propos de cette question. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je rappelle les titres de vos livres. Wikipédia, dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde. C'est signé Rémi Matisse aux éditions First. Diane Ranville, vous étiez invitée ce matin comme wikipédienne, mais vous êtes aussi scénariste de bande dessinée. La valise, c'est le titre de votre dernier ouvrage, édition Aquileos. Antoine Bello, la liste de vos romans est sur notre site à la page de l'été comme jamais. Et personnellement, je recommande L'homme qui s'envola chez Gallimard. L'histoire captivante d'un individu qui décide de disparaître, de changer de vie. Merci beaucoup à vous trois.
Merci.
Bonne journée sur les réseaux et ailleurs et dans les Merci expos parisiennes. Charles Pépin est annoncé après les infos. Bonjour,
Dorothée.
Charles, sous
Bonjour.
Le soleil de Platon. On a vu votre invité passer une tête dans ce studio parce qu'il
est grand en plus.
Parce qu'il est un grand fan de Wikipédia aussi.
Ouais, Yannick Agnel, le nageur. Champion du monde de natation, qui a eu tellement de médailles au JO, qui nous a fait tellement rêver. Et aujourd'hui, je le reçois pour un entretien philosophique sur la question de la performance, de l'échec, du succès, de ce que c'est que progresser. Et peut-être aussi de trouver une forme de joie liquide pour un ancien nageur.
Et vous pourrez jouer à chercher les fausses informations sur sa page Wikipédia.